Ce son, ce petit glissement d'un cintre sur une tringle, et puis le clic d'une porte d'armoire qui se ferme. C'est une musique que beaucoup de parents rêvent d'entendre, je crois.
Surtout à cette période de l'année.
Exactement. Les soldes de janvier sont passés, les déguisements de carnaval sont à peine rangés, et les penderies des enfants, elles ressemblent un peu à des champs de bataille textiles.
C'est une image très parlante.
Et c'est ce sentiment de chaos, très familier, qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur une méthode en 5 étapes pour trier efficacement ses vêtements.
Et ce qui est intéressant avec la source qu'on analyse, un guide du blog WeFam, c'est que ça va bien au-delà du simple rangement, ce n'est pas juste une corvée.
C'est présenté comme une opportunité, c'est ça?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de transformer ce grand tri en un système pour, bien sûr, désencombrer, organiser et même récupérer un peu d'argent. Mais il y a une dimension plus profonde.
Laquelle?
C'est un moyen de réduire sa charge mentale, et j'aime beaucoup cette expression de l'article, d'être bienveillant envers son soi futur.
J'adore cette idée d'être bienveillant envers son soi futur. On va donc plonger dans cette méthode, mais la première question qui me vient, c'est le timing. Pourquoi spécifiquement en février? Ça semble un peu...
Contre-intuitif.
Oui, c'est un mois un peu gris, on n'a pas forcément l'énergie pour des grands projets comme ça.
C'est une excellente question. Et en fait, le timing est un des points les plus stratégiques de la méthode. La source qualifie février de moment charnière, surtout en Suisse romande.
Un moment charnière. Et ce n'est pas un hasard. Il y a 3 raisons principales. La première, elle est très pragmatique. C'est le bilan post-solde.
Ah oui, les armoires sont pleines à craquer.
Voilà, c'est le signal d'alarme parfait. On est forcé de faire un état des lieux honnête de la garde-robe d'hiver. Qu'est-ce qui a vraiment été porté? Qu'est-ce qui est déjà trop petit?
C'est une prise de conscience qui peut être un peu angoissante, non? On se confronte aussi à l'argent qu'on a dépensé pour des choses à peine portées?
Oui, il y a une dimension un peu culpabilisante. Mais la source l'aborde indirectement, en présentant le tri non pas comme un jugement, mais comme une étape proactive. Et ça, c'est la 2e raison.
La préparation mentale. Exactement. Agir maintenant. Dans le calme relatif de février, ça évite la panique du grand changement de saison en avril. On connaît tous ce moment où le soleil sort et où on réalise qu'on n'a aucun t-shirt à la bonne taille.
Et on se retrouve à jongler entre les doudounes et les sandales.
C'est ça. En prenant de l'avance, on transforme une urgence future, qui est une source de stress, en une tâche planifiée et maîtrisée. On n'est plus en réaction, on est en action.
D'accord, je vois. On passe du mode pompier au mode architecte. Il y a aussi un aspect économique, si je comprends bien.
Absolument. C'est la 3e raison, plus stratégique, qui est liée à l'économie circulaire.
Vendre et donner au bon moment.
Oui. Pour la vente, d'autres familles commencent déjà à chercher des habits de mi-saison. Mettre en vente maintenant, c'est capter cette demande précoce. Et pour le don, c'est pareil. Les associations ont besoin de renouveler leur stock après l'hiver.
Ok. Le timing est donc une vraie décision stratégique. Mais une fois qu'on est convaincu, par où on commence ? J'imagine beaucoup de gens qui ouvrent l'armoire, voient l'ampleur de la tâche et...
Et la referment aussitôt.
Voilà. Complètement dépassé. La méthode doit proposer une parade à ça, oui. Et c'est la première étape qui est cruciale et souvent négligée. La préparation. C'est la fondation de tout. On ne se lance pas tête baissée. Il faut créer les conditions du succès, en quelque sorte.
C'est exactement ça. Ça passe par le choix de l'espace, une grande surface, un lit, le sol, mais bien éclairé. Et surtout, se bloquer 1 ou 2 heures, sans interruption. Pas un truc qu'on fait en étant coupé toutes les 5 minutes.
Impossible. Et puis, il y a le matériel. Le guide appelle ça le kit de survie.
Le kit de survie, j'aime bien. C'est quoi, des sacs poubelles?
Surtout pas juste ça. C'est là que ça devient intéressant. Il faut au minimum 4 contenants. Des caisses, des grands sacs, avec des étiquettes. Oui, des étiquettes très claires. À garder, à vendre, à donner et à recycler, jeter. Le fait d'avoir ces canaux de décision prêts, ça fluidifie tout. On n'hésite pas à chaque vêtement.
Voilà, on ajoute un carnet pour lister ce qui manque, un chiffon pour nettoyer, et c'est bon. L'objectif, c'est d'avancer. Une seule armoire, c'est déjà une victoire. Et c'est là qu'arrive l'étape que je trouve la plus radicale. L'étape 2, vider entièrement l'armoire, l'électrochoc nécessaire.
Mais pourquoi? Mon premier réflexe serait de trier directement sur les étagères pour gagner du temps.
C'est une réaction normale. Mais en triant sur l'étagère, on ne fait que réarranger un peu le chaos. En vidant tout, on est obligé de faire face à la réalité, le volume.
La fameuse montagne de vêtements?
Cette montagne est une confrontation physique avec notre consommation. Mais surtout, ça crée une page blanche. Une armoire vide, ça force une démarche active.
Ah, je vois. La question n'est plus « est-ce que je sors ça ?» et « mais ?»
Est-ce que je veux vraiment remettre ça dedans ? C'est un changement de perspective complet. Pour changer un système, il faut parfois le démanteler avant de le reconstruire. C'est une remise à zéro, pas un simple rangement.
D'accord. Une fois qu'on a cette montagne devant nous, on passe au cœur du réacteur, le tri. La méthode parle d'un système impitoyable en 5 catégories.
Oui, et c'est là que nos 4 caisses préparées prennent tout leur sens, avec une 5e destination, la poubelle. La première pile, à garder. C'est spécifiquement pour la fratrie.
Et le conseil, c'est de ne garder que le meilleur, j'imagine.
Uniquement les pépites. Les basiques de super qualité, les pièces qu'on a adorées, en excellent état. Pas le t-shirt un peu déformé au cas où.
Le fameux piège du « ça peut toujours servir ». Et pour la pile à vendre?
Là, on est sur ce qui a une vraie valeur de revente. Les vêtements de marque, les pièces techniques, comme une tenue de ski, tout doit être en parfait état. Il faut être objectif.
Et la différence entre à donner et à recycler? La frontière est parfois un peu floue.
C'est une distinction essentielle que fait le guide. La pile à donner, c'est pour les vêtements du quotidien, propres, en bon état, sans trous, qui peuvent être portés immédiatement. Il y a une question de dignité.
Et à recycler?
C'est pour les textiles propres, mais qui ne sont plus métables. Le t-shirt avec une tache, les chaussettes orphelines, le legging troué. Ça ne va pas à la poubelle, ça peut être transformé.
Ce qui laisse la poubelle comme l'ultime recours.
Exactement. Uniquement pour ce qui est irrécupérable, souillé. Et l'article insiste, cette pile doit être la plus petite possible.
D'accord, le tri est fait, maintenant la pile à vendre. Comment on la transforme en argent réel?
C'est souvent là que l'énergie retombe.
C'est vrai, mais la méthode donne des clés très concrètes. Pour les plateformes, on a les classiques Anibis, Ricardo, Facebook Marketplace pour le local et Vinted, bien sûr.
Incontournable pour les marques, Vinted. Mais il y a aussi les options physiques, les bourses aux vêtements, très populaires, et les dépôts-ventes. C'est sans effort, mais ils prennent une grosse commission, souvent autour de 50%.
C'est ça. Et au-delà de la plateforme, quels sont les secrets pour que ça marche? J'ai l'impression que certaines annonces partent en une heure et d'autres restent des mois.
La présentation. Ça fait toute la différence. C'est non négociable. Il faut laver, repasser et surtout faire de belles photos. Clair, sur un fond neutre, bonne lumière. Pas la photo sombre du vêtement en boule sur le lit. Surtout pas.
La description doit être ultra précise. Marque, taille, état réel, même les petits défauts. Une bonne stratégie, c'est de faire des lots pour les petites pièces. Ça part beaucoup plus vite.
Et le prix?
La règle de base suggérée, c'est de viser entre 30 et 50% du prix neuf pour un article en excellent état. C'est presque un petit business. Et pour les autres piles, le don et le stockage, qu'est-ce qu'on en fait concrètement?
C'est l'étape finale. Donner avec le cœur et stocker avec intelligence. Pour le don, les options sont nombreuses. Caritas, la Croix-Rouge, le Centre social protestant, les containers Techside. Il y a aussi les groupes sur les réseaux sociaux.
De plus en plus.
Très efficace. La source cite une phrase que je trouve très juste. Le vêtement le plus durable est celui qui existe déjà. Donner, c'est prolonger sa vie. J'aime beaucoup.
Et pour le stockage, c'est là que notre soi futur va nous remercier ou nous maudire.
C'est exactement ça. Et la méthode est très directive sur ce point. On oublie les cartons qui prennent l'humidité.
On passe aux caisses en plastique.
Oui, en plastique, transparente si possible, et hermétique. Et pour le volumineux, les sacs de compression sous vide. C'est décrit comme magique.
Ça réduit le volume de façon spectaculaire.
Mais le conseil le plus important, celui qui change tout, c'est l'étiquetage. Il doit être extrêmement précis.
Pas juste « habit bébé » écrit au marqueur. Non, l'exemple donné, c'est « fille, 3 à 6 mois, hiver ». Cette précision, c'est un cadeau inestimable qu'on se fait à soi-même pour dans 2 ou 3 ans. Alors, si on prend un peu de recul, on est passé d'une simple corvée de rangement à la mise en place d'un véritable système. C'est bien plus profond que de juste faire de la place.
Totalement. Et si on connecte ça à la dynamique familiale plus large, la portée est bien plus grande. Ce n'est pas juste une question de vêtements, c'est un rituel.
Un rituel pour faire le point, se délester du superflu.
Oui, et c'est aussi une occasion d'enseigner des valeurs de consommation plus responsables à ses enfants. Et l'effet le plus puissant, je crois, c'est qu'en libérant de l'espace physique...
On libère de l'espace mental.
Voilà. La clarté qu'on obtient dans un placard peut inspirer une envie de simplification dans d'autres domaines de la vie.
En résumé, les deux grandes idées qui ressortent pour moi, c'est d'abord le pouvoir du timing. Choisir février, c'est transformer une tâche subie en une action choisie, stratégique.
C'est un changement de paradigme.
Et ensuite, c'est ce processus très clair, en 5 étapes, qui décompose un objectif intimidant en une série de petites victoires. Ça rend la montagne beaucoup moins haute à gravir.
Exactement. Le guide transforme un problème qui peut être accablant en un projet gérable, et même gratifiant. Et en concluant son analyse, la source ouvre une porte de réflexion qui va bien au-delà du textile.
Cette idée de transposer la méthode est fascinante. On pense tout de suite aux jouets, bien sûr. Mais appliquer ce vider, trier, garder l'essentiel à nos emplois du temps, à nos boîtes mail.
Ou même à nos relations.
Ça fait presque peur. Ce serait une exploration en soi.
Et ça nous amène à la pensée finale à emporter. Ce processus soulève une question intéressante. Au-delà des vêtements, quel est le domaine de la vie de famille où l'application d'un système aussi délibéré, vider complètement, trier sans complaisance et ne garder que l'essentiel, pourrait apporter le plus de calme et de clarté? La question reste ouverte.